Bonsoir et bienvenue sur Ma Radio, la radio du BTS audiovisuel de Montbéliard, orchestrée et animée par ses étudiants. Au programme ce soir de la musique, divers chroniques et l'invité du jour. Notre invité de ce soir est l'adjoint à la culture et au patrimoine de la ville de Montbéliard, Monsieur Philippe Tissot.
L'invité du jour.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir Arthur.
Bonsoir. Alors en fait, depuis combien de temps et en quoi consiste concrètement ce poste d'adjoint à la culture et au patrimoine ?
En ce qui concerne cette mission donc, qui m'a été confiée à Montbéliard, j'ai été élu en même temps que l'équipe municipale en mars 2014. Voilà, mais cette mission n'est pas nouvelle pour moi puisque j'ai été élu à la culture dès 1995 à la ville de Bethoncourt. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir pu intégrer l'équipe municipale de Montbéliard où nous avons une offre culturelle diverse, variée, abondante, avec un certain nombre de structures. Et c'est extrêmement intéressant de porter des projets en accompagnement de ces structures.
Alors justement, vous parlez de Montbéliard en particulier. Alors quel est concrètement le futur culturel de Montbéliard ?
Avant de parler de futur culturel, je pense que c'est bien déjà d'examiner un petit peu le présent.
Oui,
c'est vrai
sûr.
Que je vous disais qu'on avait la chance dans la ville de Montbéliard, malgré la taille moyenne de cette ville, d'avoir quand même une scène nationale, d'avoir l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, d'avoir une très belle médiathèque, d'avoir de très beaux musées qui proposent des choses variées, intéressantes, d'avoir un festival également des quatre saisons et nombreuses autres activités culturelles. Au risque de vouloir tout citer, je pourrais oublier pas mal de choses. Donc aujourd'hui, il y a un tissu qui, depuis une vingtaine d'années, s'est développé, est riche. C'est un tissu qui coûte cher aussi, évidemment, à la collectivité. Et aujourd'hui, on est plus sur une dynamique d'extension, on va dire, parce que les finances des collectivités, aujourd'hui, ne permettent plus trop de travailler dans ce sens. Nous en sommes à faire vivre au mieux, on va dire, l'existant, voire mutualiser certaines actions pour pouvoir justement les maintenir, à défaut de pouvoir les développer.
Merci beaucoup, monsieur Philippe Tissot. Maintenant, on va pouvoir un petit peu se dandiner avec une petite chanson de reggae hip-hop, Back in the Days de Danitza.
Freshen up myself in all the ways. Ready for adulthood. I'm no good mood. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Gonna be a child again. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Gonna be a child again. Give me my toys, give me my doors. I was full of joys. When I was a little girl, I dream of becoming a spy. I could win like a cheetah, I could fly in outer space. I lost my special power. How can I retrieve them? How can I back in time? You let me only memories. My body has changed, my babies are dead. I wanna go back in the days. Freshen up myself in all the ways. Ready. Better before I wanna go back flashing up myself in all the ways. Ready for I do do. No control. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Gonna be a child again. Oh Lord, oh Lord, oh Lord.
C'était donc Back in the Days de Danica. Donc, elle a sorti son premier EP, qui est d'ailleurs disponible sur le site Bandcamp. Maintenant, on va pouvoir baisser notre écran blanc et se pencher sur l'émission ciné.
L'émission ciné.
Bonsoir, Lauriane, que j'ai la fâcheuse tendance d'appeler chaton, et Camille.
Bonjour, Arthur.
Alors, voici l'antenne pour vous. Vous allez nous présenter donc une émission consacrée au cinéma.
C'est ça. Bonsoir, chaton. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Ah oui, Taxi Téhéran, un docu-fiction iranien réalisé par Jafar Panahi, à qui on avait interdit toute réalisation pour avoir contesté le régime iranien. Mais qu'à cela ne tienne, c'est presque comme un copilote que Jafar Panahi invite les spectateurs à prendre place dans son taxi. Comme lui, on découvre alors la ville de Téhéran et ses habitants. Les clients se succèdent sur sa banquette arrière, chacun avec son caractère, ses idées et son histoire à raconter. Un film au fond politique qui allie rire et émotion et réussit le pari de mélanger images issues de caméras embusquées, d'appareils photo et de téléphones. Afin de protéger l'identité de ses passagers, Jafar Panahi a décidé de ne pas mettre de générique à la fin de son film. Et pour tourner sans se faire remarquer, l'équipe a placé 3 caméras dissimulées dans le taxi. N'ayant pas de place pour d'autres membres de l'équipe technique, le réalisateur a dû tout seul gérer le cadre, le son, le jeu des acteurs, son propre jeu, tout en conduisant le taxi.
Un vrai réalisateur.
Et un sacré boulot en effet, Arthur. Mais place à un peu plus d'action. Mon deuxième film est très attendu par tous les fans de super-héros et des Marvel. Je parle bien sûr d'Avengers 2, l'ère d'Ultron. On y retrouve Thor, Captain America, Iron Man, la Veuve Noire, Œil de Faucon et Hulk, qui doivent encore sauver la race humaine, menacée cette fois par Ultron, une invention de Tony Stark qui a plutôt mal tourné. Mais cette fois, deux nouveaux lurons ont rejoint la partie. En effet, dans ce nouvel opus, on y découvre les jumeaux Maximoff, qui à cause de l'absence de droits sur les X-Men ne sont plus des mutants, comme dans les comics, mais des optimisés. Font-ils partie des bons ou des méchants? Je vous laisserai le découvrir.
Sacré concept.
Si son casting est toujours fabuleux et ne cesse de s'étendre, son principal défaut est la proportion importante de scènes coupées. Sa version au cinéma a été amputée d'environ une heure, coupures qui se font grandement ressentir et qui nous laissent sur notre faim. D'ailleurs, si vous êtes fan comme moi de Loki, joué par Tom Hiddleston, personnage récurrent des films Thor et Avengers, vous allez être déçu. Car s'il y a bien une scène qui a été tournée avec lui pour l'ère d'Ultron, celle-ci ne figurera pas dans le film. Enfin, espérons que l'on retrouve toutes les scènes coupées dans le DVD. C'est donc un film sans grande surprise, digne d'un bon blockbuster avec de l'action, des effets spéciaux, de l'humour et de l'action. Mais bon, c'est bien comme ça qu'on les aime.
Merci beaucoup, Lauriane.
Je n'ai pas fini, Arthur.
Oh, excuse-moi.
Je ne pouvais pas faire ma chronique sans vous parler de Mad Max Fury Road, l'un des films les plus attendus de cette année. Film réalisé par George Miller avec Tom Hardy et Charlize Theron, que Camille a l'air d'attendre avec beaucoup d'impatience.
En effet.
Dont la sortie est prévue le 13 mai en France. Ce film marque le retour de l'un de nos héros, ou plutôt anti-héros préférés après 30 ans d'absence. Et encore une fois, Mad Max se retrouve dans le beau drap. Il est embarqué malgré lui dans une traque délirante où il devra s'associer avec l'impératrice Furiosa pour échapper à Immortan Joe, ancien chef militaire devenu leader tyrannique d'un clan de motards cannibales et violents. Une journée normale en somme. Une denrée qui se fait rare au cinéma. Environ 80% des effets visuels que l'on peut voir dans le film ont été réalisés sans trucage informatique, avec de véritables véhicules, de vrais cascadeurs, des maquillages authentiques. On peut donc imaginer qu'il aura fallu un sacré nombre de véhicules, moi qui me demandais où était passée ma Twingo. Alors foncez le voir dès sa sortie. Mais attention, sécurité routière avant tout. Et espérons que ce nouvel épisode soit à la hauteur de nos attentes. Et maintenant, je laisse la place à Camille pour les sorties DVD.
Merci,
les sorties Blu-ray, pour être tout à fait exact. Nous allons faire un grand retour dans le passé, parce que nous allons parler d'un acteur extrêmement célèbre que tout le monde connaît, à moins que vous ayez passé les 50 dernières années dans une grotte au Népal. Nous allons parler de Clint Eastwood, connu principalement grâce aux œuvres de Sergio Leone, comme Le Bon, la Brute et le Truand, et Pour une poignée de dollars. Mais dont on ignore souvent qu'il a en fait été découvert aux États-Unis par le biais d'un autre réalisateur. Je parle bien évidemment d'Don Siegel, le réalisateur de Coogan's Bluff et de Two Mules for Sister Sarah et de l'Inspecteur Harry en 71, dont les films ressortent enfin pour la première fois en Blu-ray et, une fois n'est pas coutume, ça sort en France. Donc avec des titres français, alors même que ces films-là étaient pour l'instant tout à fait introuvables en DVD. Nous allons plus particulièrement parler du film phare de Don Siegel, qui est sans doute son chef-d'œuvre absolu, Les Proies, avec Clint Eastwood. Un film où Clint Eastwood joue un soldat confédéré pendant la guerre civile aux États-Unis qui arrive blessé dans une école exclusivement pour les filles. Par la suite, il s'enclenche un jeu de séduction un peu malsain entre différentes filles de cette école et Clint Eastwood. Et les choses dégénèrent très vite parce que les filles ne sont pas prêtes à accepter. Vous comprenez. C'est un chef-d'œuvre indispensable de Don Siegel, un film d'une tension incroyable, au jeu d'acteurs absolument magnifique. Clint Eastwood y tient un de ses meilleurs rôles. La mise en scène de Don Siegel colle parfaitement à l'ambiance claustrophobique et angoissante de ce film. Et ça sort enfin pour la première fois en Blu-ray. C'est indispensable, même si nous n'avons absolument aucune idée d'à quoi ressemblera le master, aussi bien en matière de vidéo qu'en matière d'audio. Ça sort en juin, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est un indispensable, et je, franchement...
Une belle réjouissance.
Voilà, c'est bon, ne vous en fassez pas. Allez l'acheter tout de suite, précommandez-le s'il faut. À noter évidemment que ce n'est pas le seul film de Don Siegel à sortir prochainement. Two Mules for Sister Sarah est déjà disponible, tout comme l'inspecteur Harry et l'évadé d'Alcatraz. Ce sont tous des indispensables, nous les recommandons fortement. Et bon film.
Merci beaucoup Camille, merci beaucoup. Alors maintenant on va pouvoir, lors d'une seconde occasion de pouvoir se dandiner, on va pouvoir apprécier de l'électro-ambient, donc New Error de Moderate. C'était donc New Error de Moderate, de l'électro-ambient. Maintenant, on va s'occuper de l'émission La Chronique du Geek.
La Chronique du Geek.
Bonsoir Célestin, bonsoir Quentin.
Salut. Alors salut à tous et bienvenue dans cette dernière chronique du Geek. Alors aujourd'hui, comme promis, un petit duel s'impose, Mac vs Windows.
Eh oui, je tiens bien à dire que PC veut dire Personal Computer, hein, ordinateur personnel, et que ça peut être aussi bien un ordinateur Apple qu'un ordinateur Windows.
Exact. Alors pendant que tu parles de PC, je vais déjà te le dire, les premiers PC ont été popularisés par Apple, sous le nom de l'Apple II. Bon, maintenant, ça a un peu évolué. C'est bien connu pour leur écosystème basé sur la créativité, le design, l'art, le things different, comme ils aiment le dire souvent.
Certes, mais de nos jours, les utilisateurs Mac sont largement minoritaires. 1,5 milliard d'utilisateurs Windows, à peu près 90% dans le monde, quoi, et 70 millions de Mac, ça fait pas vraiment le poids, en fait.
Ouais, mais c'est au dépit de la qualité, malheureusement. La politique d'Apple est de faire un produit de qualité, même si ceci rend le prix du produit, assez élevé.
Voilà un sujet bien intéressant, le prix. Donc, quand on prend par exemple le Mac d'entrée de gamme chez Apple, les MacBook Air par exemple, à environ 900 euros, je regrette, pour moi c'est pas un prix d'entrée de gamme pour un ordinateur. Et franchement, à ce prix-là, j'achète un ordi pour moi et un ordi pour mon gosse imaginaire,
puis,
tu vois.
Puis il faut voir ce qu'il y a dedans.
Ouais.
Bon, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais je regrette, quand on prend un Mac, c'est cher, mais ce n'est pas surtarifé. On prend la totalité des composants d'un Mac individuellement, on retombe à peu près sur leur prix de vente. En réalité, on tombe un petit peu sur un prix moins élevé, mais il faut prendre en compte le bénéfice de l'entreprise, qui est un peu normal. Hein. Mais je tiens aussi à dire que la politique au niveau des Macs est de mettre plein de composants dernier cri surpuissants pour vanter les mérites de leurs produits, ce qui les rend assez polyvalents, mais la question c'est, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Clairement non.
Ah bah là, c'est sûr que tu défends bien les Macs. Hein.
La qualité n'en reste pas moins bonne. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens passent sur Windows, de Windows à Mac, pardon, et non de Mac à Windows.
Ouais, mais le fait que les composants soient de moins bonne qualité permet un prix nettement plus abordable, et du coup, tout le monde y a accès. Et ce n'est pas seulement réservé aux personnes d'une classe sociale assez élevée. Hein. Donc on a plus de modèles, plus puissants, moins puissants, pour toutes les utilisations et tous les prix. En plus, le système d'exploitation est beaucoup plus ouvert, on y trouve plus de logiciels, plus de jeux, un développement de programmes plus facile et bien d'autres choses que l'on trouve uniquement sur Windows. Dédicace aux gamers, bien sûr.
Oh, ok, ouvert, oui, mais beaucoup trop. Hein. Bah oui, à force de vouloir être trop ouvert, on se prend un peu n'importe quoi. Hein. Bon, je parle bien sûr de programmes malveillants. Hein. Oui, Mac est bien connu pour sa sécurité optimale, contrairement à Windows qui, lui, doit s'équiper d'antivirus, hein, qui sont malheureusement coûteux et pas toujours fonctionnels suivant les virus et leur provenance.
Oui, il y en a des gratuits aussi parfois. Hein.
Ouais. Alors, si Windows est si mauvais, pourquoi il y a tous ces gens qui l'utilisent, Célestin ?
J'en sais rien, à vous de me le dire.
Alors moi je pense que le sujet c'est surtout la bureautique qui est déjà un énorme facteur. Tous les ordinateurs à utilisation administrative sont des Windows. Et comme tu l'as dit, un Mac c'est plutôt pour la créativité, le Think Different. Donc on retrouvera ça plutôt dans le monde du spectacle, de l'audiovisuel ou de l'art numérique par exemple.
Oui voilà, tu l'as dit, les Macs c'est un outil de création professionnelle, ce n'est pas un jouet qui est destiné aux tâches faciles comme la bureautique. Donc ne comparons pas l'incomparable, hein. Un gobelet n'est pas utilisé de la même manière qu'un verre à champagne, ils ne sont pas vendus en même quantité, mais cela veut dire que le verre en plastique n'est pas meilleur.
Bon, on pourrait débattre c'est sûr pendant des heures, mais ce qu'il faut retenir c'est que Windows est ouvert, hein, utilisé aussi par les gamers, la bureautique, il est bien plus répandu car il est plus adapté à l'utilisation du peuple.
Alors qu'un Mac est plus convivial, avec une meilleure ergonomie du système, meilleure stabilité, tout est intégré, un système plus sécurisé, mais ça en fait un produit malheureusement plus cher, plus abouti, qui est adressé à des professionnels.
Maintenant on va laisser Célestin retourner dans sa secte fanboy Apple, et puis moi je vais retourner chez les gamers, c'est bien plus accueillant. Hein.
Bon, on espère que cette dernière émission vous aura plu.
Merci beaucoup. En tout cas, préparez-vous déjà pour Windows 10 qui va sortir en juillet.
Oui.
Alors Célestin, oui, je t'invite à le découvrir. voilà.
Je verrai.
Donc voilà. Alors après un chouette débat comme celui-ci, encore merci Célestin et Quentin. On va pouvoir maintenant passer un moment de bonne rigolade avec l'instant décalé.
L'instant décalé.
Bonsoir Arthur.
Bonsoir Arthur.
Oh mais dis donc, vous avez un chouette prénom.
Oh, je trouve que vous aussi.
Mais bon, c'est pas parce que hein, mais bon, c'est pas parce qu'on a le même prénom que il va falloir qu'on se tienne absolument au carré.
Absolument. bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais répondre à une question existentielle. Oui. Non, ce n'est pas pourquoi Kim Kardashian, mais bien sûr comment devenir berger. Eh oui Arthur, je vois l'étoile dans le.
Ah bah bien sûr, bien sûr. Vous me vendez du rêve.
Car vous ne le savez peut-être pas, mais nous manquons cruellement de bergers. Pourquoi ? C'est très simple. Avec la montée du nombre de kebabs et le retour à la mode des pulls en laine, le besoin en mouton a très fortement augmenté. Alors si votre dessin animé préféré est Shaun le mouton, que vous pensez que vivre dans le Larzac, bah c'est pas si terrible, et que la moustache et la veste en laine vous donnent un certain style, écoutez attentivement.
J'écoute.
Je tiens à préciser que tout ce que vous allez entendre a été approuvé par la Fédération Française des Bergers, hein, qu'on soit bien d'accord. Bien. Tout d'abord, munissez-vous d'un bâton. Un berger n'est rien sans son bâton. Tout bois fera l'affaire et pour la longueur, il faut simplement que vous puissiez dormir debout tout en donnant l'impression d'être éveillé car oui, le berger ne dort jamais et veille 24 heures sur 24 sur son troupeau. Enfin, c'est ce que dit la légende. Ensuite, adoptez un chien. Le chien, le meilleur ami du berger et seulement son ami. Car oui, la tentation peut être grande. Le berger vit seul. Enfin, il ne vous reste plus qu'à aborder fièrement la moustache à la Justin Bridoux et de vous procurer le livre Journal d'une brebis. Le livre par les bergers, pour les bergers. Qui au passage est vraiment poignant, hein. Je l'ai lu, j'en ai pleuré. La discographie entière de Michel Berger et vous serez fin prêt pour mener votre troupeau et faire le bonheur des clients du Classico. Crottin et saucisson, bonsoir.
Merci beaucoup Arthur.
Merci Arthur.
Ah là c'est clair, ça donne envie de se reconvertir en berger. Alors maintenant, on va pouvoir un peu se secouer, un peu à l'ancienne, un peu à la West Coast on va dire, avec du latino-américain de 2001, Lowrider de Cypress Hill.
Radio.
C'était Fresh Cut Orchestra de Mother Suit, un bon jazz comme on les aime bien. Et maintenant, on va pouvoir se consacrer à l'émission Game Over. Bonsoir Septal.
Bonsoir. Bonjour mesdames, messieurs et gamers, c'est l'heure de Game Over. Je suis Septal et aujourd'hui, bizarre, étrange, glauque, dérangeant, sombre, malsain sont autant d'adjectifs qui peuvent qualifier le jeu dont je vais vous parler. J'ai nommé American McGee's Alice. Ce jeu d'action plateforme sorti en 2001 est, comme je l'ai dit, dérangeant. Dans cette interprétation de Alice au Pays des Merveilles du développeur American McGee, oui, c'est son nom et oui, il s'appelle vraiment American, le Pays des Merveilles est une représentation de l'inconscient d'Alice et son apparence change intimement en fonction de l'état d'esprit d'Alice. Alors imaginez à quoi il peut bien ressembler avec une Alice beaucoup plus mature qui a vu sa famille brûler vive lorsque leur maison a pris feu. Bien entendu, le Pays des Merveilles est torturé et rempli de symboles et de psychologie donnant des informations. Excusez-moi.
Y a pas de mal.
Donnant des informations sur l'état d'Alice à ceux qui savent interpréter ces symboles. Un exemple pris au hasard. L'un des ennemis attaquant Alice possède un visage un peu déformé, vole et semble constitué de tissu, un peu comme un fantôme. Il attaque Alice avec des cris. Et lorsqu'il est battu, il s'enflamme en poussant un dernier cri de douleur. Un fantôme dont les cris blessent Alice et qui disparaît en étant brûlé, je sais pas pour vous mais moi ça me rappelle justement ses parents, morts brûlés vifs qui ont dû bien traumatiser la petite Alice. Et c'est avec ce genre de miroir déformant qu'American McGee va développer le scénario et l'aspect graphique de son jeu. Le chat de Cheshire possède un sourire à la limite du sadisme, le lapin blanc a un visage digne d'un homme d'affaires ultra sérieux, et le chapelier fou est devenu tellement obsédé par l'heure, qui est très importante pour ne pas rater l'heure du thé, qu'il en est venu à se mécaniser intégralement. Et ce ne sont que quelques exemples parmi ceux qu'on a visités. Et au final, ce jeu a lancé une petite mode d'utiliser les contes pour enfants et de les rendre beaucoup plus matures. Outre la suite d'American McGee's Alice, nommée Alice Madness Returns, sortie en 2001, nous avons eu entre autres un projet malheureusement abandonné de American McGee, nommé Ozombie, et basé dans l'univers du magicien d'Oz, ou encore très récemment, Wolf, The Red Hood Diaries, utilisant le petit chaperon rouge comme base. Un autre jeu utilisant cette base, dont j'aimerais vous parler, est The Path. The Path tient beaucoup plus de l'expérience émotionnelle que du jeu vidéo, selon moi. Dans ce jeu, vous commencez par choisir un chaperon rouge parmi 6, représentant différents âges et personnalités, et vous êtes largué sur un chemin, on vous dit de suivre ce chemin et de ne surtout pas aller dans la forêt. Mais c'est justement en bravant cette interdiction que le vrai jeu commence. Puisqu'en explorant la forêt, et forcément du coup en vous perdant, vous découvrirez des objets qui permettront de comprendre un peu mieux la psychologie de votre personnage, et peut-être finirez-vous par tomber sur votre loup, qui n'est pas un animal, mais la représentation de la peur la plus profonde du personnage que vous incarnez. S'en suivra une cinématique très lourde en symboles qui pourrait vous briser le moral en quelques secondes pour certains. Et c'est ça qui est beau. Ces jeux vidéo n'ont pas pour but juste de divertir. Ils font réfléchir, ils jouent avec vos émotions à l'aide de symboles et de psychologie. Ils se rapprochent énormément du courant surréaliste pour certains. Et ce n'est qu'une des multiples raisons pour lesquelles ces jeux vidéo sont de véritables œuvres d'art.
C'est pour les grands.
Exactement.
En quelque sorte. Merci beaucoup, Septal. Alors, voilà, donc c'était très intéressant, merci beaucoup. Il est 18h30 et c'est l'heure des informations.
Maintenant, les infos.
Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Arthur. Donc ce dimanche, 500 migrants ont été secourus au large de l'Indonésie alors qu'ils partaient de Birmanie et du Bangladesh. Des hommes, des femmes et des enfants se trouvaient à bord de deux bateaux, l'un transportant 430 personnes, l'autre 70, précise Steve Hamilton, le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations. Les Rohingyas de Birmanie, une minorité musulmane, vivent majoritairement dans l'état d'Arakan et font l'objet de discriminations. Estimés à 800 000, ces derniers sont privés de nationalité par l'ancien gouvernement. Elles sont perçues par la plupart des Birmans comme des immigrés illégaux du Bangladesh. Ce rejet a entraîné la fuite de près de 100 000 d'entre eux ces trois dernières années. Au Royaume-Uni, c'est contre toutes les prédictions des sondages que le Premier ministre sortant, David Cameron, a remporté une nette victoire lors des élections législatives. Après l'annonce des résultats, le Premier ministre britannique a fait une courte allocution où il a promis un référendum sur le retrait de l'Union européenne et plus de décentralisation pour l'Europe. Pour l'Écosse, pardon. Le 10 mai 2015, jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, François Hollande a inauguré le mémorial ACTE en Guadeloupe. Trois chefs d'État africains étaient présents ainsi qu'une quinzaine de ministres caribéens. C'est un espace conçu pour être le centre le plus important au monde consacré au souvenir de la traite négrière et de l'esclavage qui ouvrira ses portes le 7 juillet. Le Petit Journal a diffusé les images des journalistes agressés pour Rassemblement FN. Yann Barthès, qui était sur le plateau radiophonique de France Inter, déclare « C'est la première fois que nous sommes agressés à ce point en 10 ans ». Il a également évoqué la manière dont 3 journalistes de son équipe ont été agressés, que ce soit à travers des coups de parapluie du député européen Bruno Gollnisch ou les attaques des sympathisants du Front National. D'après Yann Barthès, c'est tout d'abord la violence du député à l'égard du JRI qui aurait entraîné, par la suite, des débordements à l'égard des journalistes dans la foule. D'après Bruno Gollnisch, il s'agissait de s'opposer à une violation de la vie privée. Critiqué depuis sa création, le festival Hellfest a une nouvelle fois été pris pour cible. Sur le site de l'événement qui aura lieu le 19 et le 21 juin près de Clisson, des dégradations ont été constatées, dégradations de diverses installations complétées par plusieurs tags comme J-47, premier avertissement, ou encore Vade Retro Satana. En effet, des catholiques seraient à l'origine des débats, des dégâts. Mais le directeur du festival, Benjamin Bardot, a rappelé que ces attaques engendrées sont issues de minorités et qu'il serait, qu'il serait injuste d'associer ces actes à l'ensemble des membres de la communauté catholique. En effet, il serait dangereux de faire cet amalgame, d'autant plus que le métal et le christianisme ne sont certainement pas incompatibles. Résistants, maquisards, incorporés dans la première armée française ou soldats venus d'Afrique, les derniers acteurs de la libération de la France ont été décorés de la Légion d'honneur ce vendredi, à l'occasion d'une célébration exceptionnelle du 8 mai 1945. Dans les principales villes de Franche-Comté, ces combattants de l'ombre ont été décorés de la Légion d'honneur comme plus de 1000 autres combattants de la Seconde Guerre mondiale. Un moment fort des commémorations de la victoire des Alliés sur la barbarie nazie il y a 70 ans. René Ruby, un pied noir de 17 ans à l'époque qui a fugué de Colombéchard pour s'engager à Oran, a participé à la libération de Belfort. C'est donc à Belfort qu'il a été décoré devant l'imposante statue de la victoire qui trône sur le square du souvenir.
Merci beaucoup Anaïs. Maintenant un point météo.
La météo.
Bonjour à toutes et à tous. Le temps va commencer à se dégrader dès demain dans la soirée. Comptez 12 degrés le matin, 23 degrés l'après-midi et des risques d'orage en fin de soirée. Quant à jeudi, 14 le matin, de la pluie dans l'après-midi avec 15 à 20 degrés. Jeudi, quelques averses avec 8 degrés le matin et 14 dans l'après-midi. Ce week-end, le temps ne sera pas meilleur. Samedi, des éclaircies avec 8 degrés le matin et 14 degrés dans l'après-midi. Dimanche, il fera 9 degrés dans la matinée avec des risques d'averses. Comptez 13 degrés dans l'après-midi. Lundi, il fera 7 à 18 degrés sans pluie. Bonne soirée et n'oubliez pas de fêter les Achilles.
Merci beaucoup Isabelle. Encore un petit moment maintenant pour pouvoir danser, s'amuser avec Moonshake de Cannes, un groupe de rock psychédélique allemand des années 70. Leur concept était d'être à contre-courant de ce qui se faisait déjà aux États-Unis pendant la même époque. Bonsoir. Bonsoir Coralie.
Bonsoir.
Donc tu vas nous parler des 120 secondes people, c'est ça?
Non.
Ah non, pardon, parce que je me suis trompé. Excuse-moi.
C'est pas grave.
Donc Joanie, vas-y, à toi l'antenne.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire rattraper ces 2 semaines de vacances avec plein de scoops. Tout d'abord, nous allons parler mode avec Christina Cordula, la célèbre styliste et animatrice des Reines du Shopping. À la suite du Met Gala, la brésilienne, réputée pour son franc-parler, n'a pas hésité à critiquer les fashion faux pas des stars lors de la cérémonie. En effet, la styliste a alors critiqué les tenues de Jennifer Lopez, Beyoncé et Kim Kardashian, les qualifiant alors de vulgaires et d'exhibitionnistes. Elle qualifie même la robe de Beyoncé ressemblant plus à un costume de carnaval plutôt qu'une robe de gala. Selon elle, ces femmes ont quelques grammes sur le corps, ce qui ne laisse aucune place pour leurs rêves, la sensualité et le fantasme. Très vite, ses propos ont alors révolté les fans des 3 stars, critiquant alors la styliste et ses goûts. Pour elle, la meilleure tenue était sans hésitation celle de Rihanna, qui portait un manteau jaune XXL en fourrure d'un créateur chinois. Une autre nouvelle qui a également divisé la toile, celle du nouveau tatouage de Shaim. En effet, aimant provoquer et faire parler d'elle, la jeune chanteuse de 29 ans s'est fait récemment tatouer une reproduction du tableau « Le visage de la paix » de Picasso. Après avoir posté une photo de son nouveau tatouage sur son compte Instagram, ses fans ont très vite réagi, parlant alors de gâchis d'avoir tous ses tatouages sur le corps, mais également d'un massacre de l'œil. Alors que la belle vient de se faire un nouveau tatouage, M. Pokora a quant à lui affirmé vouloir en enlever certains, notamment ceux du cou réalisé quand il était à peine âgé de 17 ans. Celui-ci en a marre de les voir tous les jours. Maintenant, parlons un peu de musique, et notamment du groupe L5. L5, ancien gagnant de l'émission Popstar. Le groupe avait connu son heure de gloire à la fin de l'émission pour ensuite se séparer. Une des chanteuses, Louise Joseph, avait alors ensuite réalisé une carrière solo. C'est alors que maintenant, 2 des anciennes chanteuses ont décidé de reformer un groupe appelé les L2. Très original. Pour finir cette chronique, je vais parler de Nabila, la jeune femme accusée d'avoir tenté de tuer son compagnon à 2 reprises l'année dernière, revient en ce moment sur la scène médiatique. Le procès étant pour fin 2015, la bimbo est présumée innocente et est donc libre. Des rumeurs courent comme quoi elle se serait remise avec son ancien compagnon. En effet, les 2 taureaux, interdits de se voir avant le procès, se déclarent leur amour constamment sur les réseaux sociaux. Ils auraient été aperçus sortant chacun leur tour à 5 minutes d'intervalle du même restaurant. Coïncidence ou pas, la suite nous le dira. Et voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée.
Merci Joanie. Alors maintenant, il est temps des annonces pour les sorties dans notre pays de Montbéliard. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Arthur et bonsoir tout le monde. Alors pour commencer, je vous donne rendez-vous à Jougne où se déroulera le Festival du Monde d'Art pour sa 3e édition organisée par l'association Les Têtes Libres. Le festival proposera bon nombre de concerts et de spectacles vivants. Ceci vous est proposé du vendredi 29 mai 2015 au samedi 30 mai 2015. Sur Montbéliard maintenant, retrouvez Black Bombay à l'Atelier des Môles pour leur tournée 2015. Le groupe se produira sur scène le samedi 23 mai à 20h30. La place est à partir de 15,80€. C'est à ne surtout pas manquer.
Ouais, je le confirme.
Et pour finir, on part sur Besançon pour découvrir Bharati, il était une fois dans l'Inde. Un spectacle mélangeant danse, musique et tradition indienne qui se déroulera le samedi 13 juin 2015 dans la salle Micropolis à partir de 20h. Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup Pierre. Maintenant c'est l'heure de prendre sa fourchette et son couteau pour l'assiette du jour. Ah oui, oui. Ok. Bonsoir Coralie.
Bonsoir Arthur. Aujourd'hui je vous ai préparé une recette très gourmande, parfaite pour l'été, une recette de wrap au saumon. Pour 2 personnes, il vous faut 4 tortillas, 4 tranches de saumon fumé, du fromage à tartiner du genre boursin, carré frais ou tartare, de la salade verte, du jus de citron et du poivre. Tout d'abord, étalez les tortillas sur un plan de travail et badigeonnez-les avec le fromage à tartiner. Recouvrez avec une tranche de saumon fumé, arrosez de jus de citron et d'un peu de poivre. Puis mettez de la salade verte et arrosez de nouveau généreusement de jus de citron. Enfin, roulez vos wraps bien serrés et ils seront prêts à être dégustés. La petite astuce, avant de les garnir, vous pouvez passer les tortillas au micro-ondes pour plus de gourmandise. Bon appétit!
Merci beaucoup Coralie, on a hâte de goûter cette recette. Et maintenant, nous allons nous pencher sur notre émission musique.
L'émission musique.
Salut Lucas.
Salut Alric.
Bonjour et bienvenue pour cette cinquième édition dédiée à la musique. Et comme chaque semaine, cette émission vous dévoile les jeunes artistes aux univers divers et variés dans le but de ravir le plus audiophile entre vous.
Aujourd'hui, pour nous accompagner, Sarah vous fera voyager grâce à sa voix suave. On vous laisse tout de suite avec notre chanteuse préférée, tout de suite après l'interview et les sorties de la semaine. Pour l'instant, ouvrez grandes vos oreilles et profitez. Sarah, c'est à toi.
Merci beaucoup Sarah, c'était super.
Et on va tout de suite passer à l'interview.
Bonjour.
Faut venir à côté de nous là.
On ne mord pas, t'en fais pas. On n'est pas méchants.
Alors, salut à toi. Bah, belle, déjà, très belle prestation, hein, c'était super, franchement.
Merci beaucoup.
Merci.
Et, tu pourrais nous dire quelles sont tes influences principales dans la musique ?
Un peu de tout, parce que je suis chanteuse lyrique, donc forcément, il y a du classique. Bon, là, c'est une reprise, donc je ne sais pas si je peux parler d'influence, mais en général, je suis très influencée par Damon Albarn et tout son travail. Voilà, donc ça inclut Gorillaz, Blur et tous les projets annexes.
D'accord, ok. Ouais, ouais.
Je voulais te demander, est-ce que tu composes Oui. Et écris-tu tes textes?
Oui, ouais. Ça prend du temps, mais je voulais en faire un pour aujourd'hui. C'était trop nouveau. Je n'arrivais pas à l'intégrer. Voilà.
Et il porte sur quoi le plus souvent?
Un peu tout, quoi, ce qui m'entoure. Pas forcément ma vie, moi, non. Mais les gens que je rencontre, les choses que je vois, voilà, les choses que je trouve belles ou tristes, ou le basique, quoi.
D'accord. Plutôt des émotions. Hein.
Ouais, je pense que la musique, c'est des émotions. Donc, oui.
D'accord.
Et est-ce que tu te produis en concert? Et si oui, est-ce qu'on peut te voir quelque part actuellement?
Alors oui, mais ça va être du lyrique. Et puis c'est en Italie, et la prochaine fois.
D'accord, ok. Bah,
donc du coup, voilà. Sinon il y a un concert de jazz en fin d'année au studio des Trois Oranges le 13 juin à 20h.
Et est-ce qu'on peut te suivre sur internet actuellement?
Nine.
Non.
Non.
C'est dommage, tant pis.
Peut-être bientôt.
Rendez-vous le 13 alors.
Et sinon, as-tu des artistes à nous conseiller pour finir?
Damon Albarn. Non, si. IBI, mais je crois que maintenant tout le monde connaît. Ces deux sœurs vraiment, deux sœurs jumelles, ça ressemble beaucoup, mais pas tant que ça quand même, qui sont vraiment excellentes. Robert Francis, il a un nom pourri, mais il a fait vraiment de la musique. C'est génial. Voilà, je vous conseille le dernier album de Blur, forcément, qui est à moitié du Blur, à moitié du Gorillaz, mais qui est très bon.
Et c'est le même chanteur.
Bah oui, il a rapporté tout son bagage musical, quoi. Voilà.
D'accord. Bah, merci beaucoup à toi.
Merci d'être venu jouer ce petit morceau de piano avec cette voix si belle sur ce plateau.
C'est gentil.
On va passer tout de suite aux sorties de la semaine.
Et oui, c'est avec plaisir qu'on accueille le retour de I Am Un Chien. Leur dernier album sorti en avril, Humanity, s'annonce être à mi-chemin entre un Prodigy énervé et un Rage Against the Machine, plutôt jumpant à souhait. D'autant plus que sur scène, les Parisiens envoient un set libérateur et mêlent des mélodies bien ficelées à une rythmique très rentre-dedans. Le son lo-fi un peu sale, les rythmes et à l'agressivité maîtrisée donnent le tempo d'un concert dynamique et agressif, ça décoiffe et c'est ça qu'on aime.
Alors pour ma part, je ne vous parlerai pas d'un album cette semaine, mais d'une chanson. Vous avez déjà dû entendre ça.
On le vit maintenant. Rien ne tombera des cieux, pourquoi attendre? Les temps souriants, on doit le vivre maintenant. Le bonheur n'est pas trouvé dans la chance. Il se gagne, il se prend, il faut le choisir maintenant. 1+1 est de nous, il est né. Sa force au fond du cœur s'est doucement élevée. On m'avait prédit le mal et j'ai défié les courbes. J'ai achevé mes cours, puis dévié ma course. Compris que le bonheur en fait c'est juste vivre. Faire ce qu'on désire, simplement être libre. Alors réaliser tous ces rêves dans nos têtes. Sinon à deux pas de nous, la haine et l'amertume guettent. On peut rester assis à ressasser l'échec. Encore penser que les heureux sont tous ceux qui possèdent. Le livre de mes songes à 1000 pages, à mes plans. Que je veux.
En effet, choix surprenant du rappeur Akhenaton du groupe IAM qui a prêté sa voix et son image à la nouvelle campagne de la pub de la marque Coca-Cola. À la suite de la diffusion de ces spots, une vague de fans mécontents a inondé sa page Facebook de messages d'insultes et qui, pour beaucoup d'entre eux, est à l'encontre des textes promulgués par Akhenaton. Le rappeur s'est expliqué à travers une lettre ouverte hier. Et pour le côté musical, le texte est poétique et le rappeur n'a toujours pas perdu sa plume.
Pour finir, moi je vais pas vous parler d'un album, mais d'un documentaire qui est sorti le 4 mai dernier, le premier portrait intégralement autorisé de celui qui a marqué toute une génération, Kurt Cobain. Créatif et profond, le film est une plongée cinématographique viscérale dans la vie d'un artiste en désaccord avec le monde qui l'entoure. Le réalisateur Brett Morgan opère un savant mélange d'extraits racontés en dessin et d'archives inédites de Cobain. donc des dessins, des musiques et des vidéos de familles inédites, ainsi que des interviews jamais dévoilées de sa famille et de ses plus proches confidents, notamment sa femme Courtney Love. C'est vrai qu'il est très touchant et nous montre une vision vraiment différente du chanteur qu'on croyait si antipathique.
Bah, merci à tous pour cette chronique.
Merci à vous les garçons.
Nous, on se retrouve demain pour la chronique musicale, enfin l'émission musicale de demain.
Allez,
merci
demain,
beaucoup
Alex.
Les garçons. Merci. Et maintenant, comme lors de chaque émission, place à la fiction radio. Et voici un nouvel épisode donc de Requiem for a Crime.
Mais enfin, je vous l'ai dit, je ne suis pas coupable.
On a toutes les preuves dans ce dossier. Et vous avez un mobile. Ne jouez pas au plus malin, dites-nous la vérité.
Un mobile? Quel mobile? Pourquoi je voudrais tuer quelqu'un?
On sait que vous avez des dettes envers les pianistes et quel est le meilleur moyen pour ne pas les payer? Les tuer, putain!
Mais non!
Écoutez, nous savons très bien, vous et moi, que vous n'êtes pas l'homme le plus honnête. Donc je vous conseille de mettre votre fierté de côté et d'avouer vos crimes.
Enfin, Joe, tu sais...
Pas de familiarité entre nous. Tout ce que je veux entendre, ce sont des aveux.
Mais des aveux sur... D'accord, il est vrai que je suis endetté et que je dépense plus que je ne devrais. Cependant, cela ne fait pas de moi un meurtrier.
Comment expliquez-vous qu'après chaque meurtre, vous êtes injoignable? Et comment expliquez-vous que tous les pianistes soient morts après avoir joué dans votre salle?
J'aimerais vraiment répondre à vos questions, mais je n'ai tué personne.
Votre main!
Quoi, ma main?
Il vous manque un doigt.
Oui, et en quoi est-ce un problème?
Il manquait un doigt à chacune des victimes retrouvées. Le même que le vôtre, n'est-ce pas étrange?
Je ne sais pas, ou une simple coïncidence peut-être.
Il n'y a pas de coïncidence dans un meurtre prémédité.
Ce n'est pas ma faute!
Pas de votre faute, c'est donc de leur faute si vous êtes endetté.
Vous vous méprenez, inspecteur.
Je ne me trompe jamais lorsqu'il s'agit de mes enquêtes.
Hé, hey, Joe, reste calme, on n'entend que toi!
M'en fous! C'est lui le coupable et ce connard va tout avouer.
Mais détends-toi un peu, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire parler plutôt que de lui crier dessus.
Effectivement. Écoutez-moi bien, Pichelli. Soit vous avouez et vous faites votre peine en prison pendant un moment pour ensuite retrouver votre conservatoire et votre argent. Ou soit vous ne dites rien et vous perdez tout.
Je...
Oui?
Eh bien oui. C'est moi le coupable.
Tony Pichelli, je vous déclare coupable des meurtres de Howard Newton, Fabrice Legrand, George Stewart. Tout ce que vous pourrez dire pour être retenu coupable, vous avez le droit d'apprendre. Tu vois, mon petit, c'est comme ça qu'on résout une affaire. Prends-en de la graine.
Find myself caught up in the same old game.
5 years I hoped against hope. Oh yeah. 5 years I hoped against hope. Oh yeah. I cried for you.
C'était Nobody's Fool de Pair of Stella. Il est 19h. C'était la dernière émission de l'année scolaire. Pour conclure cette dernière comme il se doit, je vous donne rendez-vous demain soir à 17h pour une émission très spéciale exclusivement dédiée à la musique live. En attendant, je souhaite aux étudiants qui passeront leur BTS la semaine prochaine de bonnes fins de révision et un très bon courage. Je tiens également à remercier toute l'équipe de Ma Radio, tous ces adorables chroniqueurs qu'on a pu avoir ce soir et nos très chers techniciens Julien Lazare et Florentin Baume. Plein d'amour, je vous aime, c'était Arthur Weber pour Ma Radio.
Ma radio.